Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être tous les jours de 15h à 16h. Alors justement, pour vous chouchouter, pour vous informer, il est à mes côtés dans ce studio comme tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Au menu aujourd'hui, dans notre grand dossier, nous allons vous parler une fois de plus de sommeil, mais de comment sa qualité impacte notre poids. Et oui, vous ne le savez peut-être pas, mais ne pas dormir assez ou mal peut vous faire grossir, vous faire prendre du ventre ou même favoriser l'apparition d'un diabète. Alors pas de panique. Pour en parler, nous recevrons une invitée de choix, le docteur Laurence Plumet. Elle est médecin nutritionniste et elle va nous donner tous ses meilleurs conseils pour nous aider à garder la ligne grâce à un meilleur sommeil. Ensuite, c'est vendredi et le vendredi, dans Sans Rendez-vous, on parle aussi de beauté. Benjamin Lévesque, notre spécialiste en la matière, va nous parler cet après-midi de nos ongles, comment en prendre soin, les chouchouter pour avoir des mains toutes soignées, toutes belles en cette rentrée. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, elle répondra à une maman qui s'interroge sur l'orientation sexuelle de son fils.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on va écouter la première, c'est une question qui nous vient de Gilles.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Je vous appelle parce que tous les étés quand je rentre de vacances, j'ai la peau hyper sèche, surtout au niveau des pieds, des jambes des pieds. J'ai le talon qui est craquelé, et du coup ça fait un peu mal quand je marche. Du coup voilà, est-ce que je dois aller voir un podologue? Est-ce qu'il y a des crèmes, des outils que je peux utiliser pour rappeler tout ça? Est-ce qu'il faut le faire? Je ne sais pas, voilà, est-ce que vous pouvez m'aider? Merci beaucoup.
Bon, Jimmy, comment vont vos pieds à vous, à cette rentrée? Je suis sûr que vous avez marché pieds nus tout l'été, que c'est la cata, non?
C'est vrai qu'ils ne sont pas terribles, mais rien à voir avec la corne que vous m'avez montrée au niveau du gros orteil, qui est absolument abominable, sans parler de l'odeur.
Vous mangez directement.
Donc moi, franchement, à côté de vous, je suis un petit joueur. Et encore, je ne dois pas trahir le secret médical, donc je m'arrêterai là.
C'est pas gentil. Alors, plus sérieusement, pour répondre à la question de Gilles, nous avons interrogé un spécialiste, c'est Jamel Bouhabib. Il est podologue et président de l'Union française de la santé du pied.
L'épiderme au niveau du pied a besoin d'être nourri, entretenu et nourri. Alors je donne souvent un exemple, c'est la chaussure en cuir. Que se passe-t-il si vous mettez de belles chaussures en cuir et que vous allez aux intempéries, c'est-à-dire la pluie, le soleil, le vent, etc. Il y a un moment où le cuir va craqueler, va se fissurer. C'est exactement ce qui se passe avec notre auditeur. Comment traite-t-on une chaussure en cuir qui craquelle, qui n'est pas traitée? Eh bien, on va appliquer un cirage pour hydrater, redonner de la vigueur au niveau du cuir. C'est exactement la même chose pour l'épiderme. Donc, le meilleur conseil que je donnerai à ce patient, c'est de prendre en charge ses pieds. D'abord, de les frotter avec une petite râpe, une fois tous les 10 jours, pour enlever les callosités superficielles. Commencer à hydrater tous les jours pendant un mois avec une crème qui va venir réparer l'épiderme. Et ensuite, en entretien, le faire au minimum 3 fois par semaine.
C'était donc les précisions de Jamel Bouhabib au micro de Benjamin Lévesque. Alors, on va passer à la deuxième question à présent, Jimmy. Une question pour vous qui va vous concerner, j'en suis sûre. Cette fois, c'est celle de Laurence. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Je me permettais de vous appeler pour poser une petite question. J'ai une fille de presque 3 ans qui nous voit régulièrement mettre du gel hydroalcoolique quand on est dehors. Je lui en mets un tout petit peu sur les mains, mais je me demandais si ce n'était pas dangereux pour les petits, d'autant qu'elle se met souvent les doigts à la bouche. Merci beaucoup, au revoir.
Alors Jimmy, une fois de plus, une question plus que d'actualité. Le gel, on en met tous sur nos mains régulièrement, mais quid des enfants? Ce n'est pas la première fois qu'on nous pose une question à ce sujet. Est-ce que c'est dangereux pour eux? Là, on parle d'une petite fille de 3 ans, je ne sais pas, quel est votre avis?
Je pense qu'il ne faut pas mettre du gel hydroalcoolique à une enfant de 3 ans, ni même de 4 ans. Il faut leur apprendre à se laver les mains. Ça peut dépanner dans des circonstances très particulières. Vous revenez des transports en commun, si vous êtes obligé de les prendre, vous avez fait des courses. Et donc, à ce moment-là, on peut se dire, pourquoi pas une petite lichette de gel hydroalcoolique. Mais ce n'est pas un mécanisme qu'il faut adopter de façon réflexe. Il faut apprendre aux enfants à se savonner les mains avec de l'eau et du savon.
Bien comme il faut,
bien comme il faut. Et puis surtout, il ne faut pas oublier qu'effectivement, les enfants mettent tout à la bouche. Donc, bah forcément, quand il en aura sur les mains, il aura tendance à toucher la tétine pour les plus petits ou ceux qui en mettent encore. Ou à porter un aliment à sa bouche, donc c'est pas forcément recommandé.
Et si on met une mini goutte, parce qu'elle nous voit le faire tout le temps, qu'elle a envie, la petite petite fille. Bon, admettons, elle mettrait les mains à la bouche, elle ne va pas non plus mourir immédiatement.
Non,
c'est pas ça le risque quand même.
Le gel hydroalcoolique contient de l'alcool et c'est l'alcool qui peut éventuellement poser problème. Le vrai souci, c'est lorsqu'ils vont en ingérer ou lorsque vous en avoir dans les yeux. Donc, s'il y a une toute petite lichette sur les mains qui vont mettre leurs doigts à la bouche, il n'y aura pas mort d'homme. Je pense que c'est plutôt dans l'apprentissage des gestes de prévention. Certes, on parle beaucoup des masques, mais on oublie la distance et le lavage de mains. Donc, apprenez à vos enfants à se laver les mains. Ce sera bien plus efficace que mettre du gel une fois de temps en temps de façon anarchique.
À partir de quel âge, quand même, on peut leur mettre une petite fiole, je dirais, dans le cartable ou dans le sac à dos au collège? Ils ont des masques, on peut peut-être leur donner aussi parce qu'ils n'ont pas toujours accès à un point d'eau tout de suite. Est-ce qu'on peut leur donner du gel hydroalcoolique
au collège? Pourquoi pas?
Nous, on nous l'a conseillé pour les enfants de collège.
Pourquoi pas au collège? J'ai pas la réponse. Je pense qu'il faudrait déjà avoir de l'eau et du savon dans les toilettes des écoles dans un premier temps, avant de se poser la question du gel hydroalcoolique. Alors oui, un collégien est peut-être en mesure de savoir gérer le gel hydroalcoolique.
Il ne met pas trop les mains à la bouche.
Mais en dessous, je suis dubitatif, un enfant de 8 ans, est-ce qu'il serait capable de le mettre au bon moment, la quantité suffisante, sur des mains propres? N'oubliez pas qu'il faut avoir des mains non souillées pour mettre du gel hydroalcoolique.
Pourquoi?
Parce que ça ne marche pas, c'est pas un produit lavant, c'est un désinfectant. Donc si vous avez les mains sales, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc au bout de 4-5 utilisations de gel hydroalcoolique, il faut se laver les mains.
Très bien, merci beaucoup Dr Jimmy Mohamed pour toutes ces précisions. Si vous aussi, comme Laurence qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé et bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas, nous y répondrons au plus vite.
Sans rendez-vous, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Laurence Plumet. Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Bonjour Jimmy.
Vous êtes médecin nutritionniste et l'auteur du livre Le Monde Merveilleux du Gras aux éditions Erol, c'est bien ça?
Oui, tout sur ces rondeurs qui nous habitent.
Très important.
Pour qu'on comprenne bien que c'est le gras du ventre.
Tout à fait. Vous étiez venu nous en parler il y a quelques mois. Alors aujourd'hui, notre thème du jour, c'est bien dormir pour bien maigrir. Est-ce que vous dites d'abord, c'est que les Français en général ont un problème finalement avec les deux? Le poids et le sommeil.
Ah mais tout à fait, et ça s'est vu particulièrement avec cette crise sanitaire dans laquelle nous vivons, puisque en fait, les gens ont énormément de troubles du sommeil. On estime que ça concerne à peu près 30 à 40% de la population, vous vous rendez compte? Ouais. Ce sont des gens qui sont insatisfaits de leur sommeil, 20% souffrent d'insomnie, et comme par hasard, une personne sur deux a des problèmes de poids. Donc les deux sont liés, et on le sait, sur le plan physiologique et physiopathologique, il y a un lien entre les deux.
Jimmy?
Et est-ce que justement la crise du Covid a entraîné une aggravation dans les troubles du sommeil, donc peut-être dans les troubles alimentaires que vous pouvez constater?
Oui, tout à fait. On a vu qu'en moyenne, les gens avaient pris entre 2,5 kg et 4 kg pendant la période de confinement. Et on a vu aussi grimper les problèmes d'insomnie et de réveil précoce, voire même de micro-réveil pendant la nuit, parce que c'est assez anxiogène, en fait, comme situation.
Est-ce qu'on sait si l'été a peut-être un peu arrangé les choses ou pas? Au contraire, niveau poids d'ailleurs, en été, il se passe quoi? On grossit, on maigrit à la rentrée au moment où on se parle. Est-ce que le poids et le sommeil, on en est où du bilan?
Alors, en été, finalement, l'évolution du poids est très variable. Il y a des gens qui maigrissent, il y a des gens qui grossissent. Alors, les gens qui maigrissent sont des gens qui ont fait plus de sport et qui ont mangé davantage de salades composées. Les gens qui ont grossi sont des gens qui ont souvent été à la plage, qui n'ont pas fait grand-chose et qui sont gavés de chouchou, de chichi,
ça, c'est vous, Jimmy,
de
ça.
Soda et de glace.
Chouchou, chichi, ça va être Jimmy rondouillé à la rentrée.
Voilà. Et puis, il faut avouer qu'il va y avoir un sacré décalage au niveau de la reprise du sommeil, parce que très souvent, pendant les vacances, on se couche très tard, on se lève très tard aussi. Et ce n'est pas tout à fait le même programme qu'il faut suivre quand on reprend le travail à la rentrée.
Jimmy?
Du coup, les effets du sommeil sur la prise du poids, ça concerne les adultes, mais est-ce que les enfants peuvent aussi être concernés? Un enfant qui dort mal, est-ce que c'est un enfant qui peut grossir?
Ah, tout à fait. Tout à fait, parce que le cerveau fonctionne de la même façon. En fait, quand il y a un déficit de sommeil, on s'aperçoit qu'il y a des modifications hormonales qui non seulement entraînent dans le sang une élévation du taux de cortisol, aussi bien chez les enfants que les adolescents et les adultes. Et on sait très bien que quand il y a trop de cortisol dans le sang, c'est une molécule qui stimule la fabrication de gras au niveau de l'abdomen. Donc c'est de la mauvaise graisse. C'est comme si, autrement dit, quelqu'un qui ne dort pas assez, ce qu'on voit très bien avec les enfants qui se couchent trop tard, ou les adolescents, c'est caricatural avec les adolescents, ou les adultes qu'on voit se coucher de plus en plus tard. Moi, je suis effarée. Mmh. Il y a quelques temps, quand les gens vous disaient « je me couche tard », c'était minuit.
Voilà, maintenant c'est 2h du matin
avec c'est deux heures
les vidéos
du matin.
En streaming et tout.
Mais
ça.
Exactement, ouais. Avec un lever à 7h du matin, quand il faut aller bosser, ça fait donc que 5 heures de sommeil.
Ouais,
donc
possible.
Il y a un déficit d'une à deux heures. Donc c'est comme si les gens prenaient leur comprimé de corticoïdes tous les matins, parce qu'en fait, ils augmentent la sécrétion de cortisol interne. Et le manque de sommeil change aussi les comportements alimentaires. Mmh. On s'est aperçu que ça donnait beaucoup beaucoup plus envie de manger des féculents et des produits sucrés.
On va y venir sur ces détails, on va dire, de l'impact du mauvais sommeil sur le poids. Mais qui c'est qui grossit le plus ? Ce sont les couches tard ou les lèvent tôt ? Ceux qui commencent très tôt, qui se lèvent à 5 heures ou ceux qui se couchent à 2 heures du matin ?
Alors, en dehors des petits dormeurs, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de peu de sommeil physiologiquement ou des gens qui ont besoin de beaucoup de sommeil. La différence, par exemple, entre un sommeil trop court normal ou anormal, c'est le tonus qu'on a au réveil. Quand on se lève, quand on a dormi que 4 ou 5 heures et qu'on se lève en pleine forme, c'est qu'on est constitutionnellement, c'est pas facile à dire, un petit dormeur. En revanche, beaucoup de gens quand même sont confrontés à une insuffisance de sommeil. Alors, pour répondre à votre question, quel est le plus gênant, se coucher trop tard ou se lever très tôt? Je dirais les deux, mon général. Parce qu'en fait, quand on regarde le sommeil dans la nuit, on s'aperçoit qu'il a des rôles différents. Le sommeil du début de nuit, celui qui débute à partir de 22 heures jusqu'à, disons, 1 ou 2 heures du matin, c'est un sommeil qui récupère de la fatigue physique. C'est un sommeil qui est très riche en rythme lent, superficiel, modéré et profond, et pauvre en sommeil paradoxal. Et le sommeil de fin de nuit, celui qui est entre 3 heures du matin et 6-7 heures du matin, est un sommeil qui est très riche en sommeil paradoxal. Et là, on s'aperçoit que c'est plutôt un sommeil récupérateur des fonctions cognitives, donc des capacités de mémorisation, de concentration, de vigilance. Donc si on se couche très tard et qu'on rate la première partie du sommeil, on se réveille chroniquement fatigué, surtout de la fatigue physique, frilosité, on n'est pas bien et on mange de trop. Et si on se lève très très tôt, comme les chroniqueurs du matin qui prennent leur poste ici à 6h et qui se lèvent à 3-4 heures du matin, ou tous les gens qui travaillent en horaire décalé, eh bien ce sont des gens qui sont privés de sommeil paradoxal. Voilà. Et donc eux souffrent de problèmes de mémoire et de capacité de concentration.
Jimmy ?
Donc vous avez dit qu'on sécrète plus de cortisol qui a créé du gras au niveau du ventre, mais aussi ça peut avoir un impact sur notre façon de nous alimenter, on a plus faim lorsqu'on dort moins bien.
Eh bien, effectivement, on s'aperçoit que les jours où on n'a pas assez bien dormi, on est fatigué et on a vraiment envie de manger des féculents, du pain, des produits sucrés. En fait, cette fatigue, le corps la comprend inconsciemment comme une hypoglycémie. Vous savez, les symptômes sont un peu les mêmes.
Oui.
La personne ne se sent pas bien, elle est fatiguée. Or, l'hypoglycémie donne les mêmes symptômes et donc la personne a envie de se jeter vers les mêmes produits pour remonter sa glycémie.
Docteur Plumet, nous allons poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien sûr avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors sur notre plateau aujourd'hui, notre invité c'est vous, docteur Laurence Plumet. Vous êtes médecin nutritionniste et l'auteur du livre Le monde merveilleux du gras aux éditions Erol. Et vous complétez le titre du livre, c'est
Tout sur ces rondeurs qui nous habitent.
Parfait. Alors docteur Plumet, avec vous aujourd'hui, on tente de comprendre pourquoi mal dormir fait grossir. D'abord, petit focus sur ceux qui se couchent très tard. Il faut savoir, donc vous le disiez un petit peu tout à l'heure, mais que ça met le cerveau en colère en quelque sorte et qu'il se met à sécréter du cortisol en masse. Et là, alors là, bonjour les dégâts, qu'est-ce qui se passe une fois que ce cortisol, il est en excès ?
Alors le cortisol, c'est une hormone qui a de nombreux effets. Entre autres, le cortisol a la capacité de stimuler la division des cellules graisseuses de l'abdomen profond, c'est-à-dire autour des viscères, et donc de favoriser ce qu'on appelle la lipogénèse, c'est-à-dire la synthèse de mauvaises graisses profondes. Je ne parle pas du petit bourrelet. Le petit bourrelet, il est sympa, il est superficiel, il fait de monde à personne.
Mais c'est le gros bidon.
Son seul défaut, c'est d'être visible. Et justement, cette graisse profonde qui est invisible est la plus dangereuse parce que c'est elle qui, à la longue, en se développant et en donnant ses ventres durs et proéminents,
surtout chez les hommes en général,
qu'on voit plutôt effectivement chez les hommes que chez les femmes. Les femmes sont plutôt les spécialistes du bourrelet et des cuisses un petit peu cellulitiques, alors que l'homme est plutôt, sauf Jimmy évidemment.
C'est vite dit, vous êtes très loin. Alors l'ophtalmo, parce qu'à mon avis, son t-shirt.
Mais c'est vrai que l'obésité est plutôt dite de type androïde chez l'homme et plutôt gynoïde chez la femme. Donc quand on sécrète trop de cortisol, on favorise la synthèse de cette mauvaise graisse profonde et donc on prend du ventre. C'est un ventre dur et c'est donc ceci qui va faire émerger par la suite l'apparition du diabète.
Attention à votre cortisol, Jimmy, attention, allez-y.
Vous avez raison. Mais du coup, si on dort mal, on va avoir des comportements alimentaires à type de pulsion, on va vouloir plus manger. Mais pourquoi est-ce qu'on va être attiré par du gras ou du sucré? On pourrait se contenter de manger des carottes ou des légumes, non? Pourquoi est-ce qu'on a une appétence particulière pour ce qui est plutôt gras?
Parce que là, c'est tout le mystère du cerveau. on s'aperçoit que c'est le cerveau qui vraiment dirige nos comportements. On a l'impression qu'on dirige nous-mêmes nos propres choix alimentaires. Et en fait, nous avons ce qu'on appelle toujours un inconscient métabolique, c'est-à-dire que notre cerveau dirige pour une grande partie nos choix alimentaires. Et là, en l'occurrence, sans qu'on le veuille, on est poussé vers les produits sucrés quand on est en manque de sommeil. Ce qui rend la chose extrêmement difficile quand vous voulez maigrir. Parce que quand vous allez voir un spécialiste qui vous dit « Ah, il va falloir arrêter les produits sucrés » et que vous ne dormez pas assez mais qu'il ne s'en est pas rendu compte ou qu'il n'a pas été capable de prendre en charge ce problème.
Je vous sens éclairé, Jimmy, là, vous comprenez tout. Vous comprenez tout.
Il y a votre inconscient qui vous pousse à faire le contraire de ce qu'on vous demande de faire. Et c'est pour ça que ces gens-là n'arriveront jamais à maigrir.
Ouais, ce qui veut donc dire que si jamais on a du mal à maigrir avec un régime qu'on pense bien mener, bah c'est peut-être qu'on a un problème de sommeil. Donc les gens qui dorment mal ont de moins bons résultats lorsqu'ils tentent de maigrir que les autres.
Ah, tout à fait. Et ça, ça a été montré par des études. Les gens qui. Il y a des magnifiques études qui ont été faites avec des volontaires qu'on a soumis à un régime, au même régime hypocalorique. Vous avez le groupe qui dort bien et le groupe qui dort pas bien, seulement 4 heures par nuit. Bon. Eh bien, au bout de 15 jours, 3 semaines de régime, le premier a perdu à peu près 3 kilos, ce qui est quand même un régime assez hypocalorique, bon, et dans des bonnes conditions, activité physique et bon sommeil, 3 kilos, dont 2,5 kg de masse grasse et seulement 500 g de muscles perdus dans la bataille. Bon, ce qui est déjà pas mal. Ceux qui n'ont pas beaucoup dormi, seulement 4 heures par nuit, ont perdu le même nombre de kilos, mais tenez-vous bien, sur les 3 kilos perdus, c'était 2,5 kg de masse musculaire et seulement 500 g de masse grasse.
C'est très intéressant.
Voilà, ça change tout.
Et vous dites que donc ce sommeil qui nous cause donc ce gros bidon, dont vous venez de parler, le gros bidon dur avec de la graisse profonde, il peut faire aussi le lit du diabète. Expliquez-nous.
Oui, parce que le cortisol a également, comme autre effet secondaire, d'augmenter la glycémie. Vous avez deux hormones qui sont antagonistes. Vous avez l'insuline qui favorise le passage du glucose dans les cellules et qui baisse la glycémie. Et puis vous avez le cortisol qui fait exactement l'effet inverse. Donc quand vous sécrétez trop de cortisol parce que, entre autres, vous ne dormez pas assez, vous vous mettez en situation de faire monter votre glycémie de façon chronique. Je ne parle pas d'un manque de sommeil sur quelques jours, ça ne vous rend pas diabétique comme ça en 3 jours. Mais je parle d'un manque de sommeil chronique chez quelqu'un qui a pris de mauvaises habitudes. Ou alors, pensons aussi à ces gens qui travaillent de nuit
pendant
ou en horaire décalé
ouais.
et qui n'ont malheureusement pas le choix et dont on sait très bien dans cette population-là qu'ils sont particulièrement exposés au diabète.
Jimmy, dernière petite question.
Du coup, au bout de combien de nuits ou combien de nuits blanches, eh bien, on peut commencer à avoir un impact sur notre poids? Est-ce que 15 jours de sommeil anarchique est suffisant ou il faut vraiment que ça s'installe dans la durée?
Ça va très très vite pour la prise de poids parce qu'une autre étude a démontré qu'il avait suffi de 4 jours pour que les personnes en manque de sommeil, ne dormant toujours que 4 heures par nuit, aient pris 800 grammes en 4 jours.
Ça va très vite.
Ouais.
Donc Jimmy, on va dire à votre petit dernier de vous laisser dormir parce que sinon, vous allez finir l'année pas terrible. Hein.
Non, mais c'est pour dire qu'on se précipite toujours dès qu'il s'agit de perdre du poids. On pense toujours à l'alimentation et à l'activité physique et on oublie le sommeil. Mmh. Et donc moi, je tenais vraiment à ramener le sommeil en première ligne parce qu'on voit combien c'est important.
C'est très important et on n'a pas terminé avec vous, docteur Plumet. Vous restez avec nous, bien sûr.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous, docteur Laurence Plumet. Vous êtes médecin nutritionniste et l'auteur du livre Le monde merveilleux du gras. Je vous laisse compléter le titre à chaque fois.
Tout sur ces rondeurs qui nous habitent.
Allez, aux éditions Erol, parfait. Docteur Plumet, à présent, on va écouter donc vos meilleurs conseils. Vous allez nous donner les secrets de nuit de meilleure qualité pour mieux gérer son poids, bien sûr. C'est notre thème du jour. Alors, ça commence par le dîner, je crois. Il faut qu'il soit léger. Pourquoi et de quoi on le compose précisément?
Oui, et à quelle heure on le prend?
Ah, allez-y.
Parce que si on le prend à 23h, on ne sera jamais au lit à 23h.
Eh oui, bien sûr. Alors, dites-nous.
Donc, il faudrait idéalement le prendre vers 20h, 20h30. C'est parfait, hein? Et donc, on le prend léger, ni trop lourd. Parce que quand un dîner est trop lourd, d'abord on prend du poids, puisque la nuit on bouge très peu, on brûle très peu de calories.
Bien sûr.
Donc normalement, un dîner ne devrait pas dépasser 600, 800 calories. Hein, et souvent, les gens sont au double dès lors qu'ils prennent un plat avec des sauces, du pain, du fromage, un petit verre de rouge. Et hop, on est sur facilement le double. Et comme on dépense très peu de calories la nuit, les gens grossissent la nuit.
Une idée de dîner correct pour bien dormir, c'est quoi?
Oui, alors le dîner, alors d'abord des légumes, beaucoup plus de légumes que de féculents. Donc on prend de la viande ou du poisson ou une petite omelette, accompagnée dans son assiette de mi-légumes, mi-féculents, en accordant plutôt la priorité aux légumes. Ça tombe bien, va bientôt arriver l'automne, l'hiver, les soupes. Les gens en mangent beaucoup, donc une bonne soupe bien épaisse, avec une tranche de jambon ou une petite omelette à côté, c'est génial. Un petit peu de pain, pourquoi pas. On fait gaffe avec le pain fromage, parce que pour ne pas s'emballer sur le fromage.
C'est bon pourtant.
Oui, mais vaut mieux réserver le fromage à midi, honnêtement, plutôt que
moi,
le soir.
Moi, je fais les deux, mais c'est pas bon non plus. Bon.
Ou alors une part, voyez, mais pas deux, mais pas trois. Quoi.
D'accord.
Et ensuite, après, pour terminer sur une petite note sucrée, parce que c'est un peu le doudou de tout le monde, hein, y compris des adultes, on termine sur un fruit ayant un bon goût sucré plutôt que sur une crème dessert au chocolat, par exemple. Bon. Et on évite l'alcool absolument, puisque l'alcool est un excitant, sans parler du café et du thé, bien évidemment. Donc, dîner léger, dont on a vu la composition, plutôt vers 20h que vers 22h, de façon à se coucher vers 22h30, 23h. Mmh. Il faut vraiment prendre soin de son sommeil. Hein. Il ne faut pas le massacrer. Il ne faut pas se dire après minuit, je récupérerai le week-end. Tout sommeil perdu ne se rattrape jamais.
Jimmy.
Parfois, on est un peu dans une situation de rush et on peut avoir tendance à vouloir sauter le déjeuner. Est-ce que c'est une mauvaise idée ?
C'est une très mauvaise idée, parce que le déjeuner est le repas plein principal, celui qui se trouve au milieu de la journée. Donc, on a faim, en général, il s'est écoulé toute la matinée.
Physiologiquement, c'est le plus important.
Ah, c'est le plus important, il doit couvrir idéalement au moins 40% des besoins nutritionnels de la journée.
Donc votre sandwich, Jimmy, autant là, ça ne suffit pas, à mon avis.
Non, ce n'est pas suffisant, parce que... Ouais. Que va-t-il se passer ? Si vous ne prenez qu'un sandwich, bien sûr, vous serez
sandwich
calé sur le moment.
Sandwich au thon pour Jimmy, je peux le dire, je le vois souvent avec le thon.
Ton mayonnaise, hein, bien sûr. On va tout savoir. Mais à partir de 16h, 17h, la faim va revenir puisque tout estomac vide appelle à être rempli. Et donc, il va déclencher la sensation de faim. Donc, vers 16h, 17h, ça commence à être la grosse faim, surtout chez une personne qui n'a pas pris de petit déjeuner, qui a mal déjeuné à midi, qui commence à avoir très faim l'après-midi, on commence à aller se précipiter sur le distributeur pour prendre une barre chocolatée, etc. Ça commence mal. Et qui arrive affamée chez elle le soir. On commence par prendre, en attendant le dîner, un peu de pain, un peu de charcuterie,
un
peu
de fromage encore.
Voilà. Et après le dîner, alors là, c'est la cata, c'est le bœuf bourguignon puré, pain fromage, verre de vin rouge et dénette au chocolat. Pardon.
C'est pas grave.
Crème dessert au chocolat. Voilà. Et c'est comme ça qu'on prend du poids.
Pour en savoir plus, je conseille donc d'aller voir votre livre, hein, Le monde merveilleux du gras. On va quand même dire un mot pour terminer sur un nouveau métier en lien avec tout ce dont on vient de parler aujourd'hui. Vous ouvrez en novembre, dans votre école de nutrition, un diplôme de napsothérapeute. De quoi s'agit-il ?
Alors, vous savez qu'en France, on n'est pas calé en prévention. On fait de la très mauvaise prévention, on n'en fait même pas du tout. Or, on sait que 40% des cancers pourraient être évités avec une bonne alimentation, que 80% de l'obésité, du diabète, etc. devraient être prévenus par une bonne alimentation. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer ce nouveau métier qui s'inscrit dans la prévention et donc dans le conseil en nutrition pour le N de napsothérapeute, en activité physique pour le AP et en sommeil pour le SO de napsothérapeute. Autrement dit, le napsothérapeute va être un acteur de prévention polyvalent, c'est-à-dire qu'il va apprendre avec cette formation qui dure un an et 500 heures de formation, à savoir auditer, identifier les erreurs de comportement des gens dans le domaine de l'alimentation, de l'activité physique et du sommeil pour les aider à changer leur comportement et éviter de tomber malade.
Une prise en charge globale grâce à ce nouveau métier. Merci beaucoup, docteur Laurence Plumet, d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Et à présent, il est temps de vous faire du bien, de prendre soin de votre apparence. Avec vous, Benjamin Lévesque, bonjour.
Bonjour à tous les deux.
Cette semaine, vous avez plein de conseils à nous donner pour avoir de jolis ongles.
Et oui, il faut savoir qu'un ongle, eh bien, ça mesure entre 1 et 2 cm carrés. Alors oui, ça ne paraît rien comme ça, mais c'est situé au bout des doigts, donc très visible, ce qui veut dire qu'avoir de jolis ongles, eh bien ça compte. Et le problème, eh bien c'est qu'on les abîme en permanence dans notre quotidien, comme l'explique la dermatologue et spécialiste des pathologies de l'ongle, le docteur Sophie Guttmann.
Les travaux ménagers, la manipulation de produits alimentaires humides, viande, poisson, fruits, légumes, tout ça sans gants. Et l'eau fragilise considérablement les ongles, il fragilise la kératine et il fragilise le ciment entre les cellules de l'ongle. Et donc, il est souhaitable de porter une paire de gants de coton ainsi qu'un gant imperméable pour tous ces travaux-là.
Et autre chose à ne pas faire, se ronger les ongles. On sait que 2 à 3 Français sur 10 le font régulièrement. Et puis, certaines maladies peuvent fragiliser vos ongles, comme une carence en fer ou encore un problème d'hypothyroïdie.
Benjamin, comment puis-je non pas fortifier mes pectoraux, mais mes ongles et les rendre moins cassants ?
Alors, vous savez, l'ongle est constitué de kératine et de cellules cornées, c'est-à-dire des cellules mortes de la peau. Il faut donc l'hydrater au quotidien. Et pour ça, je vous conseille l'huile d'amande douce ou, plus connue, la fameuse huile de ricin.
Vous notez, Jimmy, huile de ricin,
huile
d'amande douce.
On l'applique tous les soirs, Jimmy, avant de se coucher. On masse chaque ongle de façon circulaire. Ça va à la fois les nourrir et puis en plus, ils vont pousser plus rapidement. Et pour les rendre plus durs et moins cassants, là, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut appliquer un durcisseur. Alors, c'est une sorte de vernis hein, qu'on va appliquer tous les jours pendant un mois et qui va à force eh bien, rendre vos ongles plus robustes. Enfin, pour le limage, je vous ai vu l'autre jour, Jimmy, on ne fait pas n'importe quoi. On écoute les conseils de Maud Ravier. Elle est esthéticienne et fondatrice de Maud Dermo-Esthétique.
Au niveau du limage, je vous déconseille les limes en verre, les limes en fer ou les limes qui sont vraiment spécialisées pour les faux ongles. Ce sont des limes qui sont dures, qui sont raides et qui ont des trop gros grains qui vont venir abîmer vos ongles. Alors on va vraiment privilégier la lime de base, la petite lime cartonnée tout en souplesse qui peut vraiment se marier avec la forme de votre ongle et qui ne va pas venir agresser l'ongle.
Et puis pas besoin de mettre une fortune dans vos cosmétiques pour les ongles, hein. Vous pouvez fabriquer vos propres soins avec ce qu'il y a dans vos placards, comme le dit Pauline Dehec, autrice du livre « Ma cosmétique minimaliste ».
Côté gommage, donc là ce sera plutôt pour gommer un petit peu les petites peaux mortes, les petites cuticules plutôt. Si on a de l'huile d'olive dans son placard, voilà, ça peut tout à fait faire l'affaire. Et avec cette huile, on met un exfoliant. Et donc là, on peut imaginer prendre du sucre par exemple, mélanger l'huile et le sucre ensemble, par exemple au creux de la main, et puis gommer comme ça, de manière mécanique, les petites cuticules. Donc l'huile va permettre d'assouplir et le sucre va permettre une exfoliation assez légère.
Alors Benjamin, vous savez qu'avec Jimmy, on fait souvent des réunions pour préparer cette émission tous les dimanches. Et donc c'est le moment où on se met du vernis aussi avec Jimmy. Malheureusement, sur lui, ça vieillit assez mal, le vernis. Comment on y remédie?
Et oui, c'est vrai, en général, un vernis classique va durer entre 4 et 5 jours maximum. Alors une des solutions, notamment proposée par Maud Ravier, c'est le vernis semi-permanent.
Le vernis semi-permanent, c'est une laque, c'est une superposition de laque que vous allez appliquer sur vos ongles, de toutes les couleurs possibles et inimaginables. Je laisse votre imagination créer un résultat artistique qui va vous aller pour 3 à 4 semaines. C'est une superposition de laque que vous allez faire sécher à l'aide de UV sans que le vernis ne s'écaille. C'est assez magique. Et puis, vous pouvez vraiment vous assurer que le travail soit parfait, que vos ongles soient parfaits pendant 3 à 4 semaines.
Alors un tout dernier conseil avant de partir en week-end, Mélanie, on peut parfois avoir des ongles qui jaunissent, notamment à cause de la cigarette. Et là, la petite astuce, c'est de frotter ses ongles contre un quartier de citron.
Très bien, ou encore d'arrêter de fumer. Merci beaucoup, Benjamin Lévesque, pour toutes ces précisions.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed sur Europe 1.
La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et nous sommes rejoints tout de suite par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Catherine, aujourd'hui on va répondre à cette question de Charlotte que va lire donc le docteur Jimmy Mohamed. De temps en temps, c'est à vous. Hein.
Un peu de lecture ne
fait
pas de mal.
Voilà, ça va vous faire du bien.
Mon fils a 26 ans, il n'a jamais eu de petite copine. Je n'ose toujours pas aborder avec lui le sujet, mais je le soupçonne de préférer les garçons. Pourtant, quand je le vois, je lui pose toujours la même question. Alors, tu as une copine, pour ne pas le mettre mal à l'aise en attendant qu'il soit prêt, est-ce que je dois lui en parler directement ?
Catherine, ne pas avoir eu de copine à 26 ans pour un jeune homme, est-ce que ça veut dire forcément qu'il est homosexuel? Pas forcément d'ailleurs.
Pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, ça ne veut pas du tout dire qu'il n'a pas eu de copine d'abord, parce que qu'est-ce qu'en sait une maman?
Oui, pas obligé de tout lui dire.
D'une part, et puis d'autre part, eh bien, on peut prendre le temps qui est le sien, on peut avoir des difficultés pour plein de raisons, d'abord de créer des liens, d'oser se manifester, d'oser raconter son désir, de se sentir à la hauteur d'eux. La maturité de chacun n'est pas la même, l'urgence de faire l'amour n'est pas la même. L'histoire aussi de notre vie personnelle qui fait notre aisance ou non sur le sujet et corporel et sexuel n'est pas le même pour chacun d'entre nous. Il n'y a donc pas d'urgence, il n'y a pas de maladie à ne pas faire l'amour. Il peut y avoir les interrogations d'une maman, mais les interrogations ne veulent pas dire déjà les conclusions.
Jimmy.
Oui, elle peut s'interroger sur le fait qu'il soit seul, mais sans pour autant savoir si c'est des relations homosexuelles ou hétérosexuelles.
Oui,
on n'a pas à savoir qu'il ait une relation avec une fille ou qu'une femme. Peut-être juste savoir s'il est heureux, s'il a quelqu'un. Peut-être au-delà du fait qu'il soit homosexuel, non ?
Exactement. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'un jeune homme doit avoir des relations pour présenter à sa maman les relations avec qui il aurait, que ce soit de fille ou de garçon. Donc, certains jeunes hommes ne veulent présenter que la personne qu'ils épouseront ou qu'ils présenteront parce que ce sera la personne avec qui ils fonderont éventuellement une famille. Donc, les confusions, selon les histoires de chacun, sont grandes. Qu'on arrête de penser que dès que quelqu'un n'a pas de sexualité c'est qu'il est homosexuel ou que quelqu'un qui a de la sexualité devrait le dire à tout le monde, et les parents en premier lieu. Je reçois même des gens qui me disent, je n'ai pas de relation, je démarre tardivement ma sexualité, est-ce que vous pensez que je suis homosexuel ? Non, on peut avoir le droit de tarder parce que chacun, encore une fois, a un rythme qui lui est propre.
Je sais que vous n'aimez pas trop quand les parents se mêlent un peu des histoires de sexuelles, en tout cas des enfants, de leur sexualité. Mais là, il ne s'agit même pas de s'intéresser à la sexualité, mais de s'intéresser à sa vie amoureuse. Est-ce qu'on a le droit, en tant que parent, de s'intéresser à son jeune adulte, à son ado, lui dire « mais est-ce que tu es amoureux ?» Ou est-ce que c'est complètement déplacé de poser ce genre de questions ? Alors, si l'ado lui-même n'en parle pas, hein, je veux dire.
Je rectifierais, c'est pas si on a le droit ou non de s'intéresser, c'est on peut s'inquiéter pour son enfant. C'est-à-dire s'inquiéter de la difficulté qu'il peut avoir à créer des liens en général, par exemple, de ne pas avoir de copains
oui,
en
quand
général.
Quand ils sont petits, on est très inquiet de savoir.
Si, voilà, si on n'invite personne pour un anniversaire, ça pose la question de la compétence à créer des liens, à s'inscrire dans le groupe social. Donc ce qui est vrai pour l'amitié, on n'est pas obligé d'avoir des amis, mais on peut s'inquiéter, s'il n'y a pas d'amis, d'une difficulté à créer du lien. On peut dire la même chose sur le plan amoureux. J'ai l'impression, chérie, que tu n'as pas de partenaire. On peut aussi éventuellement enlever le terme copine pour ouvrir le champ des possibilités. Je ne sais pas, peut-être que le sujet de l'amour est un sujet compliqué pour toi. Peut-être que c'est le sujet de la sexualité. Ça ne me regarde pas, mais par contre, ce qui me regarde, c'est le bien-être de mon enfant. Donc, si tu avais des questions, si tu voulais me parler, je suis là. Là, du coup, on ouvre le champ des possibilités parce que si, pour savoir et pour attendre qu'il soit prêt, on n'arrête pas de dire « est-ce que tu as une petite copine ?» tout en pensant « je pense qu'il aime les garçons
». On risque de le crisper un peu.
Surtout, l'enfant n'entend qu'une chose « maman veut absolument que je ramène une fille
». Jimmy ?
Mais est-ce qu'il faut poser la question de l'orientation sexuelle aux enfants ? On ne dit pas à son enfant « est-ce que tu es hétérosexuel ?» et pourtant on a envie presque de se poser la question « est-ce que tu es homosexuel ?» Est-ce que cette question est légitime ?
Moi, je trouve toujours curieux qu'on stigmatise encore plus les choses au niveau de l'homosexualité. Même d'ailleurs, il faudrait que je dise sur mon CV que je suis homosexuel. Comme ça, je n'aurais pas à mentir quand je dis que le soir, je ne peux pas parce que je vais vous rejoindre ma copine, par exemple, alors que c'est un copain, etc. La question, c'est que notre sexualité n'appartient qu'à nous. Donc, évidemment que la frontière, elle est fragile parce que, évidemment, que quand on fait des choses les uns avec les autres, quand on s'invite les uns et les autres avec nos partenaires réciproques, se pose la question de qui est avec qui, bien évidemment. Mais dans le cadre là de la relation, alors quand on est adulte, on doit être en tranquillité avec ce que l'on vit, sans être obligé en rien, bien évidemment. Mais quand il s'agit de parents et d'enfants, on ne pose pas la question de l'homosexualité, on pose la question de l'épanouissement. Et c'est dans ce cadre de l'épanouissement que se posera peut-être la question du goût pour un garçon plutôt qu'une fille. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet est l'épanouissement, la tranquillité et la confiance qu'il peut y avoir entre un enfant et un parent.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve tous lundi dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être. Tout de suite, place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec leur nouveau rendez-vous. C'est historiquement vôtre. Ils vont vous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie.
Ah, en cœur.
Est-ce que vous aimez l'andouillette, Mélanie ?
Pas du tout.
Stéphane Bern adore ça.
Ah bon ?
Oui, je vous l'annonce. C'est notre spécial Bonne Chère. Vous savez, historiquement vôtre, c'est chaque jour un thème, trois personnages.
Donc, Vatel, évidemment, le célèbre maître d'hôtel qui a perdu la vie pour une histoire de poisson. Ensuite, Alexandre Dumas qui a fait quand même le grand dictionnaire de la cuisine. Et vous, Mathieu ?
Moi aussi, un autre amateur de Bonne Chère, mais pas écrit pareil. Issei Sagawa, le grand cannibale japonais.
Parfait, mais écoutez, moi aussi j'aime la Bonne Chère, restez, donc je serai là, je vais rester. J'ai un petit peu peur, mais je serai là, évidemment. Et vous aussi, surtout, restez sur Europe 1.